De retour sur Creative Disturbance, je m'appelle Yvan Tina et je suis aujourd'hui en France, à Caen, à l'École supérieure des arts et des médias, avec Camille Prunet. Bonjour Camille.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 minutes s'il te plaît?
Oui, alors je suis à l'ESAM, École supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg. Je suis donc coordinatrice des activités de recherche dans l'établissement et aussi chercheuse au laboratoire de l'art et de l'eau, qui est donc l'unité de recherche de l'école. Donc j'ai un doctorat en esthétique et sciences de l'art et j'ai soutenu une thèse en 2014 sur le vivant dans l'art, un questionnement renouvelé par l'utilisation des nouvelles technologies.
Ok, effectivement, Camille, si je suis ici aujourd'hui et qu'on fait ce podcast ensemble, c'est parce que on avait eu l'occasion de se rencontrer à Paris à l'occasion de la journée donc Leonardo Decalab sur le thème bio art bio design, et que je suis de Caen aussi. Enfin, j'ai fait mes études théâtrales ici, et tu m'avais dit que tu bossais sur le vivant et l'utilisation des biotechnologies par les artistes. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ton sujet de thèse et tes problématiques de recherche?
Oui, alors ce qui m'intéresse plus particulièrement, en fait, c'est de... Donc j'avais un corpus de différents artistes, art orienté objet, Wim Delvoye, Eduardo Katz, Orlan et Stellarc. Donc à partir de ce corpus d'artistes, je me suis intéressée sur la façon dont, en fait, le vivant, enfin la représentation du vivant avait évolué avec l'utilisation de nouveaux matériaux qui étaient les biotechnologies. Donc voilà, quand j'entends vivre, enfin je par rapport au vivant, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le vivant, donc humain, animal et végétal, et je regarde en fait dans ces différentes œuvres produites par ces artistes, sous ces différents angles, comment ces représentations évoluent.
Et quand tu dis l'humain, l'animal, le végétal, alors tu veux dire par là que ce sont les trois modalités d'expression qui sont privilégiées par les artistes en France, ce sont les thèmes récurrents dans l'art biotech ou...
En fait, j'avais pour moi le bioart s'accompagne d'une pensée qu'on peut dire post-anthropocentriste, c'est-à-dire que même si je suis pas très à l'aise avec le terme bioart, en tout cas, les œuvres qu'on peut englober sous ce terme sont souvent des œuvres qui s'intéressent justement à un décalage de la pensée par rapport à l'humain. Mmh. Et donc, l'humain ne constitue pas le seul vivant dans ces pensées-là. C'est, ouais. C'est une pensée qui, voilà, qui a bien conscience que l'humain n'est pas forcément au centre de l'humanité, de la Terre, enfin, de notre système et que de l'univers. Et que, justement, il faut aussi, en tout cas, c'est intéressant de prendre en compte d'autres types de vivants que sont donc notamment l'animal et le végétal, et ça me semblait important d'aller en ce sens pour bien souligner l'évolution de la pensée qui justement dans sa représentation du vivant englobait désormais beaucoup plus qu'auparavant l'animal et le végétal. Et okay. Notamment pour moi ça a commencé vraiment à partir des années 60. Ouais. On a l'exemple de Kounelis qui présente des chevaux à la galerie Latica à Rome. Voilà, c'est un exemple.
Là, il y a plusieurs questions, mais c'est-à-dire que pourquoi... Enfin, déjà, d'une, qu'est-ce qui te semble frappant dans l'évolution, si j'ai bien compris, plastique, du traitement du vivant, et quelles sont les différences entre l'humain, l'animal, le végétal? Et puis, autre chose, si je peux ajouter, pourquoi pas le minéral?
Alors, le minéral, je l'ai écarté parce que c'est moins réactif, si on peut dire, que et beaucoup moins visible que biologiquement que l'humain et l'animal et le végétal. Donc, et puis j'avais pas d'artiste dans mon corpus qui avait utilisé le minéral, donc voilà, je l'ai mis un peu de côté parce que pour moi c'est encore une autre approche et ça inclut notamment la question de la géologie qui est encore voilà un autre rapport au monde. Après, pour revenir sur l'autre question, en fait Ce qui m'intéresse notamment, c'est par exemple, il y a plusieurs points qui bougent en fait sur la représentation du vivant, mais notamment, par exemple, il y a une évolution iconographique sur la perception du vivant. Un exemple fort, par exemple, pour moi, c'est Wim Delvoye qui utilise dans une de ses séries photographiques le rat à la place de Jésus, donc pour une représentation du chemin de croix. Pour moi, le rat, dans cette œuvre-là, mais aussi de façon générale dans la société, a beaucoup évolué symboliquement. Donc on est passé, par exemple, du rat comme symbole du mal et symbole notamment de la mort hein, à travers la peste, à un rat qui serait qui est donc modèle de laboratoire et qui est quelque part un rôle rédempteur et qui donc peut potentiellement sauver l'humanité parce qu'il permet de trouver des vaccins, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est un modèle de laboratoire. Donc là, tout d'un coup, on a un changement sur la perception symbolique du rat qui me paraît typique de l'évolution sociale de la perception du vivant avec les biotechnologies.
D'accord. Non, mais si je parlais du minéral aussi tout à l'heure, c'est parce que il se trouve qu'à l'université de Dallas, où je fais ma co-tutelle aussi, on a eu la chance de recevoir Sophia Roost, qui est historienne des sciences et qui travaille aussi sur la perception du vivant dans les différentes disciplines scientifiques et notamment par les sciences de la matière. Et dans les sciences de la matière, je veux dire, elle s'intéresse justement aux questions de temporalité. C'est-à-dire que la temporalité se définit différemment selon que tu es un acare, comment on appelle ça, les acariâtres, tu sais, les petits, des insectes des acariens, pardon, enfin acariâtres, ça veut dire autre chose. Tu sais, des insectes qui résistent, des extrémophiles en fait, qui résistent à des températures de combustion ou à des températures extrêmes de froid ou à des roches, à des cristaux qui se régénèrent après un certain temps, etc. Et donc la définition du vivant aussi s'exprime de manière différente en fonction des matières et des matériaux qu'on rencontre. À quelle conclusion est-ce que tu en es arrivé au terme de ta thèse? Enfin, pas une conclusion définitive, mais...
J'ai pas vraiment de conclusion définitive, si ce n'est que pour moi, il y a vraiment une évolution esthétique forte, qui me paraît importante de ne pas séparer de l'art contemporain en général, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des liens forts et qu'il y a beaucoup d'artistes contemporains, si on peut dire labellisés comme tels, qui regardent très fortement du côté des nouvelles technologies. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne surtout pas opposer ces deux mondes, si on peut dire, le monde de l'art contemporain et le monde de l'art numérique ou de l'art biotech, enfin, de toutes ces productions artistiques qui sont très très en lien avec les sciences. Et donc moi j'essaye justement par une approche esthétique de montrer vraiment comment la question de questionner les formes que ça produit ou l'absence de forme que ça produit et comment on peut continuer à proposer une analyse esthétique de ces œuvres, même si elles nous perturbent et même si elles ont un régime de visibilité problématique. Et voilà, moi je travaille vraiment là-dessus.
La question, c'est de savoir si ces œuvres sont toujours de l'art, si je comprends bien.
De toute manière, la définition de l'art, elle est...
Est-ce que l'art technologique produit de l'art?
Oui, de toute manière, à partir du moment où un artiste décide que ce qu'il produit est de l'art, on a plusieurs manières de dire si c'est de l'art ou pas, que ce soit par la réception critique, la réception institutionnelle ou la réception publique. Donc moi, je me situe pas forcément à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est pas à moi de décider si c'est de l'art ou si ça en est pas. À partir du moment où l'artiste se déclare artiste et veut rentrer dans ce champ-là, moi je questionne plutôt la pertinence par rapport à l'ensemble de la production esthétique et artistique pour voir si sa proposition, ce qu'elle apporte de pas forcément de nouveau, mais en tout cas ce qu'elle problématise peut-être de nouveau dans le champ de l'art. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Par exemple, l'art orienté pour objet, pour moi, ont un apport plastique qui interroge de manière intéressante et innovatrice l'art de façon générale.
Je crois que je me souviens maintenant de ce que j'avais oublié, c'est-à-dire par rapport à cette historienne des sciences, c'est-à-dire Sophia Rust. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle situait sa recherche, questionnait effectivement la frontière qui se trouve entre le vivant et le non-vivant. C'est-à-dire, oui, enfin là, entre l'organique, l'inorganique, etc. Je voulais savoir, parce que c'est aussi, par exemple, ce que questionne Oren Katz et Yonatsu du Tissue Culture and Art. Est-ce que c'est aussi une partie de ta recherche?
Oui, oui, bah complètement. Alors moi, je travaille beaucoup, oui, sur ces questions-là aussi, parce que la question de la définition du vivant, c'est un peu comme la définition de l'art, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de figé et que suivant les époques, la définition du vivant varie, et que c'est évident qu'à partir du moment où on n'a pas une définition claire du vivant, on n'a pas une définition claire de la mort. Et on voit aussi dans les œuvres qui m'intéressent que effectivement, via un intérêt ou en tout cas une influence des pensées post-humanistes ou transhumanisme, la question de la mort est assez importante dans les œuvres dites d'art biotech. Parce que justement se pose la question de la vie et du vivant et du non vivant et des frontières en fait. Et c'est cette question là elle rejaillit sur la question des frontières entre humain et non humain, entre animal et non animal, et la question de l'hybridité entre ça, ce qu'on retrouve assez fortement, par exemple dans l'œuvre d'Orlan, le manteau d'Arlequin, entre autres. Hein,
ouais. Voilà. Donc le thème de l'hybridité, c'est un thème qui te semble comment à l'art contemporain et à l'art biotech, par exemple?
Oui, tout à fait. Ben, on le retrouve dans la multiplicité des médias qui sont utilisés en art contemporain. On retrouve tout à fait ça, pour moi, dans l'art biotech. Après, la différence, peut-être, pour moi, c'est ce rapprochement, on va dire, plus sémantique entre... le vocabulaire artistique et le vocabulaire scientifique sur lequel je travaille. Par exemple, la question de médium qui peut être traduit en tant que milieu, en termes biologiques. Ouais. Pour moi, c'est un rapprochement qui peut être intéressant, qu'on ne peut pas faire, par exemple, si on parle d'un médium comme la peinture, qu'on peut faire quand on parle d'un médium qui est une cellule, etc. Et du coup, pour moi, ce rapprochement sémantique entre les deux champs permet aussi théoriquement de lier en fait ces deux champs de connaissances que sont l'art et la science, et d'apporter quelques éléments de lecture nouveaux qui hybrident aussi les pensées entre art et science. De même que, effectivement, dans les médias, on a hybridé, ou les médiums, on a hybridé un matériel, une pensée artistique et un matériel scientifique au départ.
Ouais, non, j'étais en train de réfléchir, je m'interrogeais sur ce dont tu parles en termes de milieu, c'est-à-dire que, est-ce que tu crois qu'il est impossible qu'on questionne la peinture du point de vue de la composition chimique des matériaux qui sont employés et que par la suite aussi on les définisse par le terme de milieu. Je ne sais pas, ça pourrait être intéressant qu'on s'interroge sur le jaune, par exemple, et qu'est-ce qui produit le jaune, et donc qu'on travaille à un niveau subatomique qui définirait le milieu.
Oui, non, mais je veux pas dire que cette question-là existe pas du tout dans l'art contemporain. Ce que je veux dire, c'est que elle prend toute sa force dans ce qu'on appelle le bioart, dans la mesure où il n'y a plus de distance entre l'art et la vie, puisque la pièce qu'on peut appeler l'œuvre d'art est vivante, dans les cas qui m'intéressent en tout cas. Et donc, du coup, le médium se confond avec le milieu. C'est en ce sens que je fais le rapprochement. C'est-à-dire que pour moi, de toute manière, le médium devient le milieu biologique de l'œuvre. Enfin, il y a une superposition comme ça des termes qui, pour moi, me paraissait intéressant à avoir.
Et qu'est-ce que tu penses de... Je reprends une formule d'Alain Prochian. Il parle de, dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le vivant ?» que je recommande d'ailleurs. Il parle du charme pervers des métaphores. Qu'est-ce que tu penses aussi des rapprochements sémantiques qui peuvent parfois être abusifs ?
Comme quoi, par exemple ?
Je ne sais pas, moi. On pourrait parler de... on pourrait attribuer des propriétés biologiques à des choses qui n'en ont pas. En termes informatiques, par exemple, on peut dire que quelque chose vit alors qu'elle ne vit pas.
Oui.
Ou alors qu'elle vit, mais d'une manière, d'une modalité différente, enfin, sous une modalité différente.
Pour moi, en fait, je vois pas en quoi. Enfin, c'est forcément. Si c'est un détournement de la pensée première, si c'est fait d'un point de vue artistique, moi je trouve ça toujours enrichissant parce qu'on l'a vu avec la théorie des systèmes qui a été théorisée dans l'art. J'ai oublié le nom du théoricien qui l'a fait, mais qui a été repris par Hans Haacke notamment. On voit bien que le nom de mais du théoricien, mais on voit bien là que effectivement, mais c'est comme la French Theory qui, quand elle a été théorisée aux États-Unis, réceptionnée aux États-Unis, avait pas tout à fait dans la réception, pas tout à fait la même signification que ce qu'elle avait à l'origine. Mais ça, tout message est susceptible, in fine, d'être compris ou d'être reçu de façon perturbée. Et justement, c'est ce qui est extrêmement intéressant. C'est pour ça aussi que dans ma thèse et dans mes recherches, je travaille aussi sur la question de la créolisation. Parce que pour moi, la question de la pensée mouvante, des noirs glissants notamment, me paraît très intéressante parce qu'on est dans un monde de flux et où forcément, il y a des perturbateurs qui arrivent et qui viennent faire varier les messages mais ça apporte du coup une diversité et ça enrichit le message premier. Après, ça peut avoir des effets pervers et in fine évidemment, mais ça peut aussi enrichir le terme, enfin l'idée première, quoi.
Oui, non, bon, excuse-moi, mais c'est parce que je vois qu'on a largement dépassé le temps. On aura l'occasion de poursuivre ces discussions plus tard. Merci beaucoup, Camille Prunet.
Merci, Yvan.
À bientôt.
À bientôt.